Donc on a parcouru un peu la vie de Jacob ensemble, en tout cas on a suivi son parcours. Et donc voici ce troisième épisode qui représente un peu le dénouement de sa vie, de cette recherche de la bénédiction que nous avons vue dans sa vie. Alors on va lire ensemble le Genèse chapitre 32. Et mon souhait ce week-end, que c'est la vie de ce personnage, la vie de Jacob, puisse être marqué à vie par sa vie, si ce n'est pas déjà le cas, et sa recherche de la bénédiction vous aide à comprendre le mécanisme de votre cœur, et puis la solution pour prendre la Bible aussi en Dieu, en Jésus-Christ. Donc Genèse 32. Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, « C'est le camp de Dieu !» Et il donna à ce lieu le nom de Manaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. « Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban, et je suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, j'ai des ânes, des brebis, des serviteurs, des servantes, et j'envoie à l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. » Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, « Nous sommes allés voir vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux, et il dit, « Si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. » Jacob dit, « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce jour avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne meure avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien. Et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondante qu'on ne saurait le compter. » C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit, pris de ce qu'il avait sous la main, pour faire un présent à Ésaü, son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 boucs, 20 ânes et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, et mettez un intervalle entre chaque troupeau. » Il donna cet ordre au premier, « Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera, te demandera, « À qui es-tu? Où vas-tu? À qui appartient ce troupeau devant toi ?» Tu répondras, « À ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. » Il donna le même ordre au second, au troisième, et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici ton serviteur Jacob, viens aussi derrière nous. Car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui et resta de cette nuit dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, les fit passer à tout ce qui lui appartient. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa de Peniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point de le tendon qui est à l'emboîture de la hanche. Car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Après 20 ans d'exil, Jacob est sur le point de revenir dans son pays et de revoir son frère jumeau Ésaü, qu'il n'a pas vu depuis toutes ces années. Et la dernière fois qu'il l'a voyé, son frère voulait le tuer. Compliqué. Mais ce chapitre donc raconte le moment déterminant dans la vie de Jacob. Ce week-end, nous avons vu Jacob à la recherche de la bénédiction, et ici, il va toucher cette bénédiction. Mais jusque-là, la vie de Jacob correspond bien à cette chanson du groupe U2. I still haven't found what I'm looking for. Je n'ai pas encore trouvé ce que je recherche. La vie de Jacob, c'est l'histoire d'un homme qui est en recherche de cette chose que le livre de la Genèse appelle la bénédiction, que nous avons étudié ensemble, mais peut-être notre époque, vous, on parlerait de la réussite, ou de l'approbation, de la valorisation, de la sécurité, de tout ce bien-être que nous recherchons, tout comme Jacob, cette bénédiction. Alors, certains pensent que la bénédiction vient de la réussite financière. On a vu comment beaucoup magouillent pour l'avoir. Et ici, Jacob, il a réussi financièrement, en tout cas, il a bien réussi. Malgré le fait qu'il n'était pas le fils aîné de sa famille, on voit à quel point il est riche, il a beaucoup de choses, et même par ce il va envoyer un cadeau à son frère, un petit cadeau à son frère, mais vous voyez, le cadeau qu'il envoie à son frère, c'est des vagues de chameaux et de vaches, tout ça, donc ça montre, s'il peut faire pour lui, c'est un petit cadeau, déjà qu'il est bien riche. Donc il est riche, mais et pourtant, est-ce qu'il est vraiment béni? Est-ce qu'il a touché à la bénédiction? Parce que pour avoir tout ça, il a dû magouiller, il a dû frauder pour l'avoir, et il redoute cette rencontre avec son frère, parce qu'il sait que finalement, est-ce que mon frère va penser à tout ça? Donc la bénédiction. Alors la réussite financière, est-ce que c'est là? En tout cas, il n'est pas complètement à l'aise, même riche. D'autres, bien sûr, cherchent cette bénédiction dans une rencontre amoureuse, ce qu'on a vu hier soir, cette recherche de l'amour, en pensant, c'est l'amour, c'est la beauté d'une personne, ouais. C'est une relation que je peux avoir. Mais déjà, Jacob a essuyé plusieurs déceptions amoureuses, même des soucis dans son couple, on avait étudié, mais c'était assez compliqué avec ses deux femmes, plus leur servante, il a dû gérer les quatre femmes, et tous les enfants, ouais. Pas toujours facile. Donc, toujours à la recherche de la bénédiction. Mais, enfin, dans ce chapitre, il sera béni, ce que nous avons lu. Il va être béni, et ça va passer par un face-à-face avec Dieu, une rencontre avec Dieu. Et ça peut être intéressant ce matin de revoir l'importance que la Bible accorde à cette expérience personnelle que chacun de nous avons fait ou pouvons faire avec Dieu, une rencontre avec Dieu qui est la clé de la bénédiction, de vivre cette rencontre. Et c'est cette rencontre qui donne lieu pour Jacob à un jour nouveau, une nouvelle étape dans sa vie. Et enfin, il arrive à bout de son parcours. Il va vivre d'autres choses, mais différemment, à partir de là, plus serein, fort de la bénédiction de Dieu. Donc ce matin encore, nous voulons rappeler que nous aussi, nous avons besoin de rencontrer Dieu et vivre dans sa présence pour avoir sa bénédiction. Donc cette rencontre, il y a plusieurs facteurs qui vont être propices à cette rencontre. Et peut-être que vous allez vous retrouver dans ces moments clés de la vie où enfin on touche à la bénédiction de Dieu. Donc c'est d'abord un moment de crise, ensuite un moment seul, enfin un moment de lutte et un moment de grâce. Donc voilà ce que Jacob va vivre pour enfin toucher à la bénédiction. Un moment de crise, un moment seul, un moment de lutte et un moment de grâce. Si on peut voir ces choses ensemble, tout d'abord, un moment de crise. Alors on a vu que Jacob est bien béni, il est riche, tout ça, mais malgré tout ça, malgré ses richesses, il se trouve devant une situation qu'il ne maîtrise pas. Donc c'est l'idée qu'il va rencontrer son frère, et puis on vient lui dire... En verset 6, que son frère vient à sa rencontre et il marche avec 400 hommes. Donc, une armée de 400 hommes avance vers Jacob. Et là, le verset 7 dit que Jacob est très effrayé et saisi d'angoisse. On comprend. La dernière fois qu'il avait vu son frère avait juré de le tuer. Maintenant, c'est pas que son frère, mais son frère avec 400 hommes. Et lui, il a que sa famille, ses enfants et ses troupeaux. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il est effrayé, il est angoissé. En plus, il peut se dire, Ésaü va voir toutes mes richesses et il va se rappeler que pour, moi, j'ai volé, j'ai triché quelque part. Il va dire tout ça, normalement, c'est moi qui aurais dû avoir cette bénédiction. Donc, peut-être qu'il y a une certaine culpabilité, et il pense à tout son parcours, toute sa manière qu'il avait traité son frère. Donc, angoisse, peur, frayeur, culpabilité. Et donc, Jacob, qu'est-ce qu'il fait? C'est vrai que Jacob, jusque-là, il a grandi dans une famille croyante. Il croyait à l'existence de Dieu. Il avait fait déjà quelques expériences spirituelles à différents endroits. Il avait prié. Même au début de ce chapitre, vous avez remarqué des anges de Dieu. Verset 1, des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à celui le nom de Manaïm. Manaïm, ça veut dire deux camps. Et il pense qu'il a son camp, sa famille, mais... Dieu lui rappelle qu'il y a un autre camp, c'est le camp de Dieu, c'est le camp, il est entouré des anges, quoi. C'est pareil pour nous tous, et il y a nous, il y a aussi le camp de Dieu. Mais, donc ça c'est au début du chapitre, mais c'est intéressant, verset 7, quand il est très effrayé, vous avez vu ce qu'il a fait en verset 7, il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, en disant si Ésaü vient leur compte. Un de ces camps, l'autre pourrait se sauver. Alors là, il y a l'auteur fait exprès, parce qu'au début du chapitre, on parle de Manaïm, deux camps, et là, Jacob va encore refaire deux camps. Donc ça montre que pour lui, le fait qu'il y a le camp de Dieu, ça reste théorique. Il y a les anges et tout ça, c'est bien, ils peuvent me protéger, mais là, on retrouve l'ancien Jacob. On retrouve un peu le Jacob qui s'appuie sur les stratégies humaines pour trouver des solutions. Je vais faire deux camps comme ça, je vais pouvoir gérer tout ça, au lieu de se dire, ah oui, il y a quand même le camp de Dieu, il y a le camp des anges autour de moi, je vais être confiant. Non, on se demande s'il y a déjà un peu le Jacob qui doit se débrouiller, qui complote un peu pour trouver des solutions avec ces deux camps. Mais malgré tout ça, il est quand même face à ce moment de crise qui va l'aider, qui va le pousser vers Dieu. Et à partir du verset 9, tout ce qui restait théorique un peu dans sa vie semble se matérialiser quand même, comme beaucoup d'entre nous devons vivre. Hein. On connaît la Bible, on a grandi peut-être dans un cadre ou une famille chrétienne. Mais à un moment, ça devient insincère, authentique. Et en verset 9, c'est ce qu'il fait. Il crie vraiment à la délivrance. Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel. C'est la première fois de sa vie où il appelle Dieu par son vrai nom, éternel Yahvé. Et là, il s'intéresse vraiment à des choses que Dieu a dites, à des promesses qu'il avait reçues de Dieu. Toi, tu as dit, verset 12, je te ferai du bien. Je rendrai ta possession. Donc, c'est comme s'il saisit vraiment la parole de Dieu. Il l'applique à lui-même. Et combien de nous devons passer par là, hein? On peut connaître, mais de le personnaliser, de le s'approprier, de dire ça, il me faut cette promesse dans ma vie maintenant. Seigneur, au secours. Il saisit des promesses. Et l'autre chose forte, c'est qu'il choisit la reconnaissance. Verset 10, je suis trop petit pour toutes tes grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. La reconnaissance, c'est tout le contraire des magouilles et débrouillardise du système D sur lequel Jacob s'était fié jusqu'à là. Mais c'est ce moment de crise qui va enfin sortir cette foi authentique, se tourner vers Dieu, crier à lui. Et combien souvent c'est le cas dans nos vies, c'est des moments de crise qui nous poussent à s'appuyer sur Dieu, à rencontrer Dieu, à prier peut-être vraiment pour la première fois, à écouter vraiment la Bible pour la première fois, même si on a fait ça par habitude maintes fois. Bien sûr, on ne souhaite à personne des moments de crise. On ne souhaite à personne des angoisses, de la culpabilité. Mais c'est vrai que ça peut être salutaire. Alors c'est sûr, des gens autour de nous, dans le monde, disent, ah oui, la foi c'est pour les gens faibles, c'est justement des gens en crise, des gens angoissés, des gens effrayés. Moi ça va, pas de crise dans ma vie, je m'entends très bien avec mes collègues, ma famille, mes voisins, moi-même, la santé, c'est super. C'est une chance, c'est très bien, on est content pour ces personnes, que ça dure. Déjà dans ce cas-là, il faut être très reconnaissant. Moi, je dis, un des grands défauts, désavantages de l'athéisme, c'est qu'on n'a personne à qui remercier. Et ça, c'est quand on ne vit pas dans la reconnaissance, ça crée un malaise dans une vie personnelle et dans une société. Et cette malaise, on la voit bien autour de nous. C'est-à-dire la reconnaissance est saine, la reconnaissance est utile pour une vie, pour une culture. Mais quand on supprime celui qui donne tant de bonnes choses, et quand on n'a personne à qui dire merci, forcément, soit l'égoïsme ou la plainte s'installe. Donc, si tout va bien dans votre vie, au moins, choisissez la reconnaissance. Mais il faut dire, on peut tous se reconnaître. C'est souvent dans les moments de crise qu'on a fait un pas de plus avec Dieu, qu'on a découvert des choses, des trésors dans sa parole, ou qu'on s'est passer à un niveau supérieur, en tout cas, de notre foi, de notre vie chrétienne, de notre vie d'église. C'est en passant par l'église. C'est ça qui nous pousse à Dieu. La reconnaissance peut le faire, les bénédictions peuvent le faire, et ça nous pousse à la reconnaissance. Mais comme Jacob ici, ça va être un moment de crise qui l'aide à enfin saisir et capter tout ce que Dieu veut lui donner, toute la bénédiction de Dieu. Donc, parfois, il faut un moment de crise pour rencontrer vraiment Dieu. Ensuite, un moment seul, après avoir fait passer tout ce cadeau et puis la famille, le verset 24, juste une petite phrase auquel on peut s'appeler courtement, Jacob demeura seul. Il est le dernier à traverser ce cours d'eau, le Jabbok. Moi, je ne pense pas qu'il a fait pour se cacher derrière sa famille et envoyer tout le monde devant pour, timidement, mais il a besoin d'être seul. Dieu profite encore pour l'isoler un peu. Je pense à lors peut-être d'un déménagement, vous devez rentrer ou quitter un lieu où vous étiez habité un bon moment. Vous êtes le dernier à faire le tour de l'appartement vide. Vous allez fermer la porte à clé, mettre la clé dans la boîte aux lettres. Là, beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions, beaucoup de pensées qui jaillissent. C'est certainement ce qui se fait à Jacob, là, ça fait toutes ces années qu'il était loin de son pays. Et il est seul. Et de ce côté du Jabbok, vous savez, il n'y a pas de connexion Internet. Il n'y a pas du réseau 4G. Il n'y a pas les amis, pas la famille. Et c'est là où Dieu va profiter pour lui parler. C'est sûr que nous, on fait tout dans la vie pour qu'il n'y ait pas trop de moments comme ça. Mais ils peuvent être utiles. J'aime bien cette citation de Pascal, Blaise Pascal. Pascal disait, tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre seule. Il dit, la seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement, et cependant, c'est la plus grande de nos misères. Sans le divertissement, nous serions dans l'ennui. Et cet ennui nous pousserait à chercher un moyen plus solide d'en sortir. Mais le divertissement nous amuse et nous fait arriver insensiblement à la mort. Donc Pascal disait, parfois c'est cette solitude, cet ennui, où enfin on se pose les grandes questions de vie, enfin on cherche les solutions. Mais on n'aime pas ça, alors on comble cet ennui avec le divertissement qui nous empêche d'avoir ces moments seuls. Ces moments où on fait le point, ces moments où on cherche la vérité. Et c'est vraiment notre monde. Je trouve qu'il décrit pertinemment bien notre monde qui arrive, par le divertissement, à éviter les grandes questions de la vie. Mais je vous dis, profitez des moments où peut-être Dieu vous met à l'écart, ou des moments dans la vie où vous vous sentez isolé, où vous vous sentez seul. C'est ces moments-là qui peuvent être spirituellement utiles. Récemment, dans notre église, il y avait une soirée témoignage avec un groupe de jeunes. J'étais touché, le nombre de jeunes qui disaient, oui, en fait, c'était là, je suis parti pour mes études, ou je venais en métropole, ou je me retrouvais vraiment seul. Après avoir l'habitude de la famille ou les amis, Dieu nous place cette fois. Mais c'est ces moments-là qu'ils ont appris à s'accrocher à Dieu, c'est ces moments-là qu'ils ont appris à peut-être prier ou à faire le point. Donc peut-être les jeunes qui partent un jour à la fac, ou vous vous trouvez un jour sur un lit d'hôpital, ou vous vous retrouvez dans un autre pays qui n'est pas le vôtre, eh bien, Dieu peut vous parler dans ces moments pour provoquer une rencontre, pour une découverte de sa bénédiction. Donc un moment de crise, je trouve intéressant, un moment seul, et puis un moment de lutte. Là, verset 24, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Là, Jacob lutte toute la nuit. Et c'est la partie la plus bizarre de notre texte. C'est vraiment une histoire curieuse dans ce livre de la Genèse. C'est quoi cette lutte? C'est une nuit entière de lutte physique avec ce personnage mystérieux qui par la suite s'avère être Dieu. Là, c'est quoi ça? Mais le texte met tout l'accent sur ce moment-là, sur le moment clé. D'ailleurs, en hébreu, c'est intéressant, les mots, il y a des mots, une résonance qui ressemble entre Jacob et lutté, et l'endroit, c'est le Jabok. En hébreu, c'est Akob, Abak, Abok. Akob, Abak, Abok. Ouais, c'est quelqu'un qui dit ça en hébreu, il dit, ah tiens, je retiens ça. Akob, Abak, Abok. Jacob lutta au Jabok. Mais quelque part, c'est pour nous faire retenir cette idée, et que la vie de Jacob, c'est vrai, on a vu, la vie de Jacob était lutte. Jacob a toujours lutté. Il a lutté avec son frère dans le ventre pour être le premier, mais non, il a perdu. Il a lutté avec Ésaü, qui était l'aîné, plus fort que lui à la chasse. Il pouvait se sentir nul, comme moi j'aime la maison, tout ça, mais mon frère, lui, il réussit la chasse. Il a lutté avec son père qui l'aimait moins que son frère. Vous imaginez la lutte que ça représentait d'avoir, recevoir l'amour d'un père qui finalement préfère son frère. Il a lutté avec Laban, son beau-père, avec toutes ces années de négociations de salaire pour avoir ses épouses. Et ça s'est assez mal passé avec son beau-père qui voulait toujours lui aussi magouiller. Donc les deux magouilleurs ont lutté ensemble pendant des années. Il a lutté avec ses épouses qui ne lui rendaient pas la vie toujours facile entre leur désir d'avoir des enfants et puis leur concurrence et leur jalousie entre elles. Et voilà, c'était une lutte entre elles, une lutte qui a débordé dans toute sa vie de famille. Qui lui a effectivement donné les douze enfants en Israël, les douze tribus. Mais voilà, une lutte dans son couple. Donc, toute sa vie, une lutte. Et le fait qu'il lutte encore une fois, cette fois-ci, avec cet être mystérieux, cet homme inconnu, c'est l'image de toute sa vie. Il ne sait pas que derrière tout ça, en fait, c'est avec Dieu qu'il lutte. Et c'est exactement notre monde et notre époque. Et c'est le résumé de nos vies. Beaucoup sont en train de lutter. Ils luttent avec Dieu sans le savoir. Il lutte avec sa réalité, son existence, le fait qu'on habite dans son monde qu'il a créé. Mais tant qu'on ne le reconnaît pas, la vie est une lutte. La devise française, on ne lâche rien, la lutte continue. On veut toujours lutter pour obtenir un meilleur salaire. On lutte pour obtenir les droits, on lutte pour tout. Alors, dans un sens, cette recherche tenace d'être béni, de réussir, de gagner, c'est pas un défaut, c'est comme ça que nous avons été créés. On est à la recherche de cette bénédiction, de cette lutte, de cette victoire, de vaincre, de surmonter. Mais auprès de qui? Pour obtenir quoi? C'est ça la question. Et donc, les gens luttent pour obtenir, ils pensent aller rendre heureux, ils pensent aller faire réussir. Mais la lutte continue. Et finalement, on se trompe de combat. C'est avec Dieu qu'il faut aller lutter. C'est avec Dieu, c'est à Dieu qu'il faut réclamer la réussite, la bénédiction. Et la sécurité, et l'amour. C'est pas le frère qui, au fond, peut offrir ça. C'est pas la place dans la famille, c'est pas le père, c'est pas le patron, c'est pas la copine qui peut dispenser cette valorisation, cette bénédiction, cette réussite que notre cœur, notre âme recherche tant. Alors, verset 26, ils luttent toute la nuit. Et cet homme dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Là encore, on dit, mais c'est quoi comme requête, comme demande? Est-ce que c'est pas un peu à affronter de la part de Jacob de réclamer de cette manière, de ce personnage, la bénédiction? Surtout si nous, on sait qu'il s'agit de Dieu, donc je ne te laisserai pas aller que tu m'aies béni. Est-ce que c'est une bonne attitude? Mais je dirais, quelque part, Dieu encourage cette audace de la foi, cette démarche envers lui, qui enfin demande à lui la bénédiction. Ça ressemble un peu à des personnes dans l'Évangile qui ne se laissent pas faire jusqu'à ce qu'ils arrivent à Jésus-Christ pour le toucher, pour l'attraper, pour avoir son aide, sa guérison. Des fois, plusieurs ont été renvoyés par les disciples où il y avait la foule qui bloquait, mais ils poursuivaient pour enfin toucher Jésus. Il semble que Jacob est un peu comme ça. Je ne te laisserai pas aller que tu m'évites. C'est comme s'il commence à comprendre que la seule source de bénédiction ne peut venir que de ce Dieu. Et c'est ça un peu le dénouement de notre parcours que nous avons fait ce week-end. Enfin, Jacob demande à la bonne personne l'approbation, la réussite, la bénédiction. Et ça, nous devons vivre ça, nous devons comprendre ça, notre monde aussi. Enfin, demander à la bonne personne ce secours, ce salut, cette bénédiction. Alors qu'on a passé toute notre vie à la chercher dans bien d'endroits. Enfin, il demande à la bonne personne. Et ça, cette lutte, toute sa vie est une lutte qui est résumée par cette nuit de lutte avec un être mystérieux. Et finalement, il découvre qui est cette personne et qui va pouvoir le bénir. Et donc, on termine avec maintenant un moment de grâce. On a besoin souvent de vivre un moment de crise, un moment seul, un moment de lutte. Mais la bénédiction va aussi, la rencontre avec Dieu passe par un moment de grâce. Et quand on lit ce texte, petit à petit, l'identité de son adversaire se dessine. Déjà, laisse-moi aller car l'aurore se lève, comme quoi personne ne peut voir Dieu face à face et vivre. Et puis cette autorité qui manifeste pour renommer Jacob, hein, vous imaginez rencontrer quelqu'un qui dit tu t'appelles plus Samuel, tu t'appelles. Qui peut faire ça? Et dans le livre de Genèse, c'est très important, le fait de pouvoir nommer quelqu'un, ça montre toute une autorité. Et finalement, c'est Dieu qui nomme des personnes, qui délègue cette autorité à Adam pour nommer d'autres animaux, mais c'est lui qui va renommer Abraham, qui va renommer Sarah, et maintenant il renomme Jacob en Israël. Ça, c'est que Dieu qui peut nous donner notre nom, notre identité. Mais, et donc ça c'est le comble, Jacob lutte avec Dieu. Alors qui va gagner? C'est lui-même. C'est même pas une vraie lutte. C'est le Tout-Puissant, il lutte avec le Tout-Puissant. Vous imaginez un match, une bagarre avec le Tout-Puissant qui veut gagner. Mais si c'est Dieu, visiblement Dieu retient sa puissance parce qu'il lutte toute la nuit. Et puis c'est le verset. Voyons qu'il ne le maîtrisait pas. Dieu ne maîtrise pas Jacob. Alors c'est que Dieu retient sa puissance. Un peu peut-être comme un père qui joue avec son enfant. À tout moment, Dieu pourrait l'écraser, Dieu pourrait le détruire, Dieu pourrait le tuer. D'ailleurs, on voit bien, il suffit qu'il touche sa hanche et plaf, c'est déboîté, et le match. Mais le comble, c'est qu'il laisse, en quelque sorte, il laisse Jacob triompher, ce qu'il dit. Il se laisse retenir par Jacob. Il se laisse être tenu par Jacob. Et il dit, tu as lutté avec Dieu et les hommes, et tu as été vainqueur. Il laisse Jacob triompher. Donc, Jacob a perdu dans un sens, sa hanche est déboîtée. Mais c'est à ce moment que Jacob perd devant. Jacob perd la lutte sa première fois et pas de magouille, pas de système D, pas solidarité avec son frère, avec son beau-père, tout ça. Cette fois-ci, Jacob perd. Il perd la lutte, mais à ce moment, il gagne. C'est en perdant qu'il gagne, qu'il est vainqueur. Pour la première fois dans sa vie, Jacob, la réussite, la victoire, la bénédiction n'est pas en fonction de ses efforts, de sa force, de ses mérites, de ses ruses, de ses magouilles. Pour la première fois, la victoire vient autrement. Là, il ne peut plus faire les croche-pieds à l'autre pour avancer soi. Cette fois-ci, ses anciennes méthodes, c'est fini tout ça. Cette fois-ci, il goûte à ce que la Bible appelle la grâce, où lui-même est faible, mais il est vainqueur. Il repart boiteux, mais victorieux. Vous voyez? Et la bénédiction passe ainsi, ce moment de grâce, où c'est en perdant, en étant faible, il va recevoir, goûter la bénédiction, la force, la victoire et ce que Dieu lui offre. Et c'est vraiment ce que Jacob vit là, c'est la même offre que l'évangile fait à chacun de nous. Jésus-Christ, lui, il est tout puissant, mais il a accepté de perdre pour nous faire gagner. Il aurait pu lutter avec nous et nous condamner, nous écraser à cause de nos fautes, de nos péchés. Mais ce n'est pas comme ça qu'il a fait, il a choisi de nous rendre victorieux. Le cadeau, la grande bénédiction, dont parle Genèse d'ailleurs, va aboutir un jour à Jésus-Christ. Jésus-Christ devient cette bénédiction que tout le monde cherche. Et lorsque nous cherchons cette réussite en Jésus-Christ, qu'il a fait pour nous, la manière que lui, il a perdu pour gagner, pour nous faire gagner, on est enfin béni. Parce qu'à la croix, il nous a acquis cette valorisation, cette approbation, cet amour que tout le monde recherche, il a acquis pour nous à la croix, en perdant, pour nous faire gagner. Et à ce moment-là, c'est vraiment un nouveau jour, on repart différemment, comme Jacob repartit différemment, enfin béni. Verset 29, et il le bénit, là, cette bénédiction qu'il cherchait toute sa vie, il va le recevoir par cette rencontre face à face avec Dieu. Mais il est émerveillé, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Normalement, voir Dieu face à face, c'est cuit pour nous. Mais Jacob va le voir face à face. Et nous aussi, nous pouvons voir Dieu face à face, en partie en tout cas, en le regardant en Jésus-Christ. Jésus-Christ mort pour nous, Jésus-Christ ressuscité pour nous. Et c'est ça qui sauve notre âme, qui nous obtient la bénédiction finale de notre cœur. Alors, que nous puissions rechercher la bénédiction ainsi et saisir la victoire qui nous donne. Amen. Amen.